La conférence ce week-end, c'est sur le sujet de la vie du nouvel homme, l'existence de l'unique nouvel homme. Nous avons couvert deux messages hier. Nous avons vu la vision de l'unique nouvel homme. Et la chose principale, la plus importante de l'existence de l'unique nouvel homme, c'est de prendre Christ comme notre personne. Le désir de Dieu, c'est de gagner l'Église. Et l'Église, c'est simplement le corps de Christ. Et ce corps, avec Christ comme la tête, constitue l'unique nouvel homme. Donc, quand nous arrivons à un tel sujet, il faut que nous rendions compte que c'est quelque chose qui est profond dans le cœur du Seigneur. Surtout à la fin de cet âge, le Seigneur veut gagner cet unique nouvel homme. Nous avons vu au commencement de la Bible, au temps de la création, Dieu désirait gagner un homme. Il a créé beaucoup de choses, mais son but, c'était de gagner un homme après son image, à son image. L'homme était le centre. L'homme, c'était le sens. Dieu avait besoin d'un homme pour l'exprimer et le représenter. Après que Dieu a créé cet homme, Satan est venu pour le corrompre, pour injecter le poison à l'intérieur de lui. En le séduisant, en prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en plus de cela, dans Genèse 11, Satan a provoqué l'homme de rébeller contre Dieu, en construisant un tour pour rébeller contre Dieu. Et comme jugement, Dieu est venu pour confondre l'homme à travers différentes langues, afin que l'homme ne puisse pas communiquer l'un avec l'autre. Et après ce moment-là, l'homme n'était pas simplement un pécheur, mais il était divisé. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé un homme collectif. Mais à travers la chute, Satan a corrompu cet homme à travers le péché. Et à travers la rébellion, Satan a fait en sorte que l'homme était divisé et éparpillé. C'était l'histoire de l'homme déchu. Après 4000 ans, l'homme est Dieu est devenu comme un dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu, mais aussi le second homme. Le premier homme a échoué, Mais le second homme est venu pour répondre aux exigences de Dieu. Pendant ses 33 ans et demi, il a exprimé Dieu et il a représenté Dieu. Il a accompli ce que Dieu avait attendu en Genèse. Christ était l'homme. Même Pilate a dit, regardez l'homme. À la fin de sa vie, quand il est allé sur la croix, il était l'agneau de Dieu pour mourir pour nos péchés. Mais selon Éphésiens 2:15, Paul nous a montré quand Christ était sur la croix, il a aboli les commandements en ordonnance. Afin de créer les deux en lui-même en un seul nouvel homme. Je ne pense pas que beaucoup de chrétiens ont déjà vu cela. L'œuvre de Christ sur la croix n'a pas simplement traité les péchés, mais il a aboli aussi les ordonnances. Les ordonnances qui ont créé l'ennemi envers deux peuples, parmi les Juifs et les païens. Nous sommes tous des êtres humains. Nous savons tous que dans ce monde, il y a tant de races, de couleurs, de langues. Même dans un pays comme le Canada et dans la province comme le Québec, vous savez qu'est-ce que c'est l'ennemité. À travers différents arrière-plans, parmi les Juifs, les Arabes, l'ennemité est toujours là. Aux États-Unis, il y a, après tant d'années, il y a toujours l'hostilité. Mais Christ, sur la croix, il a accompli quelque chose de merveilleux. Il a aboli toutes les lois des commandements en ordonnance. Il a anéanti le mur mitoyen qui divisait ces deux peuples. Il a enlevé toutes les raisons, tout le terrain qui nous divise. Dans le passé, les circoncis méprisaient les non-circoncis. Et un maître qui était dans une classe élevée méprisait les esclaves qui étaient dans une classe moins élevée. Mais sur la croix, Christ a aboli toutes ces différences. En d'autres mots, que tu sois circoncis ou non, aux yeux de Dieu, tu es le même. Il n'y a aucune différence de statut. Il n'y a aucune différence en termes de pratique et de préférence. Il n'y a aucune différence en termes de préférence religieuse. Christ sur la croix a aboli toutes ces choses. Afin qu'il puisse créer en lui-même un seul, unique, nouvel homme. Éphésiens 2 nous dit qu'il a fait la paix. lui-même est notre paix. Christ, en abolissant les ordonnances, il a établi la paix. Et même, il est allé annoncer la paix comme l'Évangile. Chers frères et sœurs, il n'y a aucune paix dans ce monde. Le véritable paix, c'est Christ. La véritable paix, c'est Christ en tant que le nouvel homme. Christ lui-même était le second homme, mais il était seulement une personne. Maintenant, sur la croix, il a créé un seul, un nouvel homme, qui est un homme-Dieu collectif. Et au jour du Pentecôte, après 50 jours, à Jérusalem, l'Esprit parachevé a été déversé sur le peuple de Dieu. Et beaucoup de Juifs qui venaient de différents arrière-plans ont été rassemblés à Jérusalem. Et ils étaient éparpillés dans les différentes régions. Ils parlaient de différents dialectes. Mais ce jour-là, ils étaient à Jérusalem. Ils ont entendu le bruit. Le vent de l'Esprit a soufflé. Et les disciples parlaient en langue, dans les dialectes qu'ils comprenaient. Qu'est-ce qui se passait? C'était des Juifs. Ils devraient parler l'hébreu. Mais là, les disciples parlaient des langues qu'ils comprenaient tous. Pierre se levait et il a prêché l'Évangile. Et ils étaient piqués dans leur cœur. Ils ont cru et se sont baptisés et 3000 se sont ajoutés à l'Église là. Et ce jour-là, il y avait la première Église sur la terre, c'était l'Église à Jérusalem, qui se composait de beaucoup de monde, de différents arrière-plans et de langues. Ce qui divisait à Babylone, à Babel, maintenant, sous la croix, ce qu'il a accompli, il a créé l'unique nouvel homme, et il est venu comme l'Esprit parachevé. Il a baptisé tous les croyants dans un seul corps. Il a rassemblé tous ceux qui étaient éparpillés ensemble pour devenir l'Église. L'Église à Jérusalem, là-bas, c'était la constitution de l'unique nouvel homme qu'il a réalisé sur la croix. Ce jour-là, au Pentecôte, il a inversé ce qui se passait à Babel. Tous ceux qui parlaient différentes langues, ils pouvaient être rassemblés pour être un. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de langues. J'étais heureux d'entendre le français, même si je ne comprenais pas. Mais l'esprit fait écho. Tu parles coréen, tu parles chinois, tu parles anglais, tu parles allemand. Il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, nous sommes dans l'unique nouvel homme. Ils ne sont pas divisés par langue. Christ nous est entré pour ne pas simplement être notre vie, mais il est aussi notre personne. Le Christ qui est en moi est exactement le même que le Christ qui est en vous. À l'extérieur, peut-être notre couleur n'est pas la même, la langue que nous parlons n'est pas la même, mais le Christ qui est en nous est exactement le même. Même le même Christ unique. C'est lui qui nous rend un. Il est le constituant de ce nouvel homme. Donc, quand nous nous rassemblons comme l'Église, notre ce que nous vantons, ce n'est pas les différentes couleurs, mais notre fierté, c'est ce que Christ est un. Il est la réalité de ce nouvel homme. Il a commencé la vie de l'Église sur la terre à Jérusalem, et à la fin de la Bible, nous voyons l'Église qui est le corps de Christ et le nouvel homme. Et ça va parachever de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem n'est pas simplement une ville, mais c'est une personne. Elle deviendra la mariée que Christ mariera. Et à ce moment-là, Christ sera représenté et exprimé dans sa plénitude, qui était ce que Dieu avait l'intention dans Genèse chapitre 2 et 3. Chapitre 1. Christ est l'accomplissement au niveau individuel. Mais sur la croix, Christ a accompli le désir que Dieu avait quand il a créé l'homme dans Genèse 1. Et ultimement, cet homme-là sera parachevé dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, chers saints, j'espère que cette vision est claire devant vous. Nous sommes dans l'étape de le corps de Christ et le nouvel homme. Le corps de Christ et le nouvel homme est le même. La seule différence, c'est l'emphase. Le corps de Christ met l'accent sur Christ comme notre vie pour l'avancement du corps. Mais le nouvel homme met l'accent sur Christ comme notre personne. Maintenant, nous sommes à la fin de l'âge. Nous sommes ici pour accomplir la commission de Dieu, d'accomplir son économie. Il faut gagner ce nouvel homme qu'il désirait dans Genèse. L'homme qui a accompli le désir de Dieu à la croix. Et qui était réalisé sur le déversement de l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes ce nouvel homme. Mais ce nouvel homme-là doit croître, doit grandir. Le nouvel homme a été créé, mais il est simplement, je dirais, un bébé. Alors que le frère Lee a parlé ses messages il y a 41 ans, notre compréhension de ces messages n'était pas très adéquate. nous étions très jeunes toujours. Mais notre frère Lee n'était pas découragé. Il a continué à parler pour libérer les messages de différents angles. Il nous a aidés à voir ce que c'était le corps de Christ. Et plus qu'on voit la réalité du corps de Christ, plus on est aidé à voir la vision du nouvel homme. Sûrement, tu ne connaîtrais pas le nouvel homme si tu ne connais pas le corps de Christ. Je crois que tous les messages que le frère a libérés sur le corps de Christ nous aident à comment faire l'expérience et entrer dans la réalité du nouvel homme. Dans 4 ans, le Seigneur aura le recouvrement de plus de 100 ans. Pardon. Depuis, le Seigneur a élevé le frère Ni en Chine en 1922. Le Seigneur a libéré son fardeau mis à jour à travers le ministre de l'âge. Il a libéré les messages sur l'expérience de Christ comme la vie. Il a libéré des messages par rapport au salut. Il a aussi libéré des messages par rapport à la pratique de l'Église et aussi sur le corps de Christ. Ce sont les 4 aspects principaux de le ministère de Frère Ni. Qui a formé le fondement du ministère de frère Lee quand il a été envoyé pour aller à Taïwan en 1949. Le frère Lee était absolument un avec le frère Ni. Il n'a rien parlé autre que ce que parlait le frère Ni. Il a parlé fidèlement les messages par rapport à Christ et l'Église. Et quand le ministère a avancé, il a continué à parler les messages par rapport au corps de Christ et aussi par rapport au nouvel homme. Ça faisait 41 ans. Et notre frère Lee est allé aller au Seigneur il y a 22 ans. Et loué soit le Seigneur, nous sommes toujours là. Ces frères-là étaient les ministres de l'âge. À travers ces deux frères-là, ils parlaient le ministère de l'âge. La parole présente du Seigneur. Nous ne sommes pas ramenés à ce que Martin Luther a parlé, la justification par la foi. Nous ne sommes pas simplement ramenés à ce que parlaient ceux de Inner Life, la vie intérieure. Nos deux frères-là, ils étaient fidèles pour accomplir le ministère de l'âge. Et là, ils ont apporté le ministère, ils ont avancé le ministère jusqu'à maintenant. Et qu'ils vont parachever dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça la parole présente du Seigneur. C'est une chose pour avoir la parole de Dieu, mais c'est une autre chose d'avoir la parole présente de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous parle à ce moment-ci? pour répondre aux besoins de Dieu dans cet âge. Si nous parlons les mêmes messages de Martin Luther, ça ne répondra pas aux besoins d'aujourd'hui. Ce qui répond aux besoins de Dieu présentement, c'est les messages sur Christ en tant que le corps de Christ et en tant que le nouvel homme, même pendant l'âge de Watchman Nee. Il a dit que notre commission aujourd'hui, c'est d'exalter Christ. Christ doit être celui qui est prééminent. Il doit avoir la première place. Aujourd'hui, il faut dire la même chose. Christ doit être exalté. Il est prééminent au milieu de nous. Il est notre personne. Il est tout et en tout. C'est ça, la réalité du nouvel homme. Nous sommes à ce stade-là. Pour réaliser cette réalité, pour que Christ soit notre personne, nos deux frères sont déjà décédés. Ça fait déjà 21 ans. Et le recouvrement du Seigneur continue à avancer. Fortement, ça avance fortement, ça avance, il y a beaucoup d'avancement et de croissance. Je ne pense pas que je me vante. Nous avouons tous que nous sommes rien. Comparé à ce que le Seigneur a donné aux deux frères-là, nous sommes vraiment rien. Mais en dépit de ça, le Seigneur continue à avancer. Je considère récemment, si Watchman Nee s'assirait là aujourd'hui, est-ce qu'il serait heureux? Oui, je crois qu'il serait très heureux. Il serait très heureux pour entendre ce que nous parlons aujourd'hui. Après 2000 ans de l'histoire de l'Église, vous ne pouvez pas trouver un groupe de chrétiens qui ont resté ensemble, qui sont restés ensemble pendant autant de temps. Il y avait l'Assemblée des Frères qui était très utile à Dieu dans les années 1800. Dieu les a utilisés pour libérer tant de vérités riches. Mais ça a duré pas plus de 30 ans. Après cela, ils étaient séparés, éparpillés. Ils n'avaient aucun impact après cela. Chers saints, le recouvrement du Seigneur maintenant est déjà dans tous les 6 continents dans le monde. Il y a 96 ans, le Seigneur est allé en Chine, à une terre vierge. Il est à cause de la situation politique, le frère Li a été envoyé à Taïwan. Mais à ce moment-là, le recouvrement du Seigneur restait toujours en Asie. Mais parce que le frère Li est allé à Taïwan, il a ouvert la porte pour aussi aller à l'Occident, l'Ouest. Et après cela, le Seigneur a atteint les États-Unis, l'Europe, la Russie, l'Australasie et même l'Afrique. L'Afrique qui est un continent noir et on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Et maintenant, on a plus de 150 églises là-bas en Afrique. Plus de 4000 saints qui se réunissent là-bas. L'Afrique a 54 pays. C'est le continent le plus divisé. Maintenant, on a 20 pays qui se réunissent, qui ont des réunions. Amen. On a 16 pays où il y a des églises établies. Comme j'avais dit hier, l'octobre qui s'en vient, on aura la formation ITERO pour les anciens en Éthiopie. Nous sommes rien. Nous sommes vraiment rien. Personne. Mais le Seigneur continue à avancer. Si tu restes pendant un autre 4 ans, on va atteindre notre centenaire. On va pas célébrer, mais on devrait avoir une adoration intérieure. Pourquoi le Seigneur nous gardera, nous garde? Notre chef est déjà décédé. Mais nous sommes toujours là. Mais il ne reste pas beaucoup de temps pour que le Seigneur puisse élever un autre groupe de personnes. Il a libéré tout ce qui est dans le cœur de Dieu. Il doit avoir cet homme, ce nouvel homme. Le nouvel homme que Christ a créé sur la croix. Maintenant, il doit être réalisé ici sur la terre. Quand le nouvel homme croit et qu'il est mûr, c'est ça la préparation de la mariée. La mariée sera préparée. Et le mari reviendra. Nous sommes vraiment sur cette frontière-là. C'est vraiment juste autour du coin. C'est pour ça que ce sujet du nouvel homme est si lourd dans le cœur de Dieu. Quand le nouvel homme apparaîtra, quand il sera produit, la mariée sera là. Et cet âge sera parachevé. Et le royaume viendra. C'est pour ça que ces messages sont si cruciaux. La semaine prochaine, nous allons libérer encore plus de messages par rapport au nouvel homme, qui est un aspect très important du nouvel homme. Le corps ne peut pas combattre. Le nouvel homme combat. Dieu a besoin d'un homme pour combattre l'ennemi. Donc, en tout cas, nous habitons dans un moment très crucial. J'espère que nous pouvons voir où nous sommes aujourd'hui. C'est quoi notre responsabilité aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le message de ce matin, il faut que nous voyons quelque chose sur le besoin de la vie du nouvel homme. Il faut croître en Christ en toutes choses. Il faut apprendre Christ conformément à la réalité qui est en Jésus. Cet homme a déjà été créé par Christ sur la croix. Mais son besoin, c'est de croître. Nous pouvons voir à travers ces conférences que nous sommes le nouvel homme. Mais vous êtes dans quelle étape? Vous êtes toujours dans l'étape d'un bébé, d'un enfant? Vous pouvez dire que nous sommes déjà arrivés à un homme mûr. Dans Éphésiens 4, Paul a prié jusqu'à temps que nous arrivions tous à l'unité de la foi et à la pleine connaissance de Dieu, à un homme mûr, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Cher saint, le nouvel homme a une stature. C'est pas simplement un enseignement, c'est pas simplement une pensée. C'est un homme avec une stature. Et cette stature-là a même une mesure. Le monde verra ce que c'est l'Église. Ce n'est pas une grande cathédrale. Ce n'est pas une structure avancée, moderne. Mais c'est un homme-Dieu universel. Quelque chose de très solide. Il a une stature. Il n'est pas plat sur la terre. Mais c'est une personne qui se met debout. Même avec une mesure. C'est quoi cette mesure-là? Quand Paul a mentionné au chapitre 3, la mesure de cette stature de ce nouvel homme, c'est la mesure de Christ. La profondeur, l'auteur, la largeur, le monde verra qu'il y a un homme-Dieu collectif. Qui exprime les richesses et la plénitude de Christ. La longueur de Christ, l'auteur de Christ, la profondeur de Christ. Ce nouvel homme doit croître pour devenir un homme mûr. Donc, il faut qu'on ait ce message-là. Il faut prier, « Seigneur, crois en moi, grandis en moi. » Ou encore plus, aide-moi à grandir en toi, en toutes choses. Tu ne peux pas parler à vivre une vie à un enfant parce qu'il joue toujours. Ils connaissent simplement à jouer. Jusqu'à temps qu'il grandit, pour vivre une vie du nouvel homme, il faut qu'on grandisse. Et aussi, on a besoin d'un modèle. Et on ne devrait pas croître d'une façon sauvage. Il faut vivre selon un modèle. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, on voit la question de apprendre Christ. Il faut croître en Christ. Il faut apprendre Christ pour que notre croissance soit appropriée. Regardons le plan maintenant. Le point Romain 1. Pour la vie corporative de l'unique nouvel homme, nous devons grandir en Christ en toutes choses. Cette question de croître en Christ il y a beaucoup de mal compréhension parmi les chrétiens. Nous pensons que croître en Christ, ça veut dire de lire plus la Bible, de prier plus, pour être plus humble. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Mais juste ça ne veut pas dire que vous avez cru en Christ ou grandi en Christ. Paul dit pour tenir Christ dans l'amour, pour qu'on puisse croître en lui, croître en Christ dans l'amour. Notre croissance doit être dans cette personne. Nous pensons que notre croissance, ça veut dire que je deviens plus spirituel ou connaissant. Mais croître en lui, ça veut dire qu'il croit en nous. Il faut croître dans cette personne, en toutes choses. Pas simplement dans les choses spirituelles, pas juste dans notre prédication de l'Évangile, dans nos études bibliques, mais aussi dans nos paroles, dans notre habit, dans notre nourriture. Il veut que nous croissions en lui dans toutes ces choses. En toutes choses. Pas simplement les choses spirituelles, les choses reliées à l'Église, mais en toutes choses. Comment vous nettoyez vos souliers, comment vous vous coiffez, comment vous vous comportez à votre famille. Dans tous ces aspects-là, le Seigneur veut que vous croissiez en Christ. C'est une expression particulière. C'est pas simplement une question de croître en Christ, mais croître en Christ. Qui est Christ qui est à la tête. C'est pas juste Christ comme notre sauveur. Mais de croître dans cette personne qui est la tête. Nous sommes le corps de cette tête. Si vous regardez votre corps physique, comment est-ce que votre corps croit? Ton bras peut-être est 3 pieds. Peut-être que lui, le bras veut dire, peut-être le bras va dire. Moi, je veux grandir. Peut-être demain, il sera 4 pieds, 5 pieds ou 6 pieds. Est-ce que c'est une croissance normale? Est-ce que c'est ce que Paul a parlé de croître en Christ? Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un qui avait 2 bras de 6 pieds? Ça serait un monstre. C'est pas un homme. Un homme avec une stature appropriée. Chaque membre croit dans une mesure. Quand quand Paul parle de croissance dans Éphésiens 4, 15 et 16, il ne parlait pas d'une croissance chrétienne individuelle. Il parlait de la croissance de membres du corps sous la tête. Notre croissance doit être mesurée. Notre bouche est si grand comme ça. Ça serait si laid si quelqu'un avait une bouche grande comme ça. C'est anormal. Dieu nous donne un corps avec beaucoup de membres, avec des capacités appropriées. Seigneur, je veux grandir en toi comme un membre sous la tête. Dans les années précédentes, beaucoup de frères et sœurs, ils aspiraient à grandir comme des hommes spirituels. Ils avaient beaucoup de connaissances de la Bible. Ils priaient beaucoup. Tu ne peux pas dire qu'ils n'avaient pas de croissance, mais leur croissance est devenue étrange. Leur croissance, ça a devenu difficile, pour être avec les autres. Ce n'est pas la croissance qui parlait Paul. Même ils ont grandi à un tel point qu'ils méprisaient les autres. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Dieu comme moi ou tu ne poursuis pas Dieu comme moi? Il y a une sorte de méprisance, même une compétition. Qui est plus mûr, qui est plus utile à Dieu? Dans les années précédentes, il y avait des tempêtes parmi nous qui étaient menées par des frères qui, soi-disant, mûrs. Ils ont atteint un certain niveau de spiritualité. Mais je dirais, leur croissance était totalement individualiste. Il n'y avait aucune considération pour le corps de Christ, le reste du corps de Christ. Il faut croître en lui, en toutes choses. Nous avons vu que le nouvel homme, c'est entièrement une question de notre vie et notre vécu. Ce n'est pas une question de nos réunions. Les messages libérés à Taipei, ils étaient glorieux. On avait 30 000 personnes, 62 pays. Mais la suite, après la réunion, est-ce qu'il y a toujours le nouvel homme? Le nouvel homme n'est pas principalement dans les réunions. Le nouvel homme est principalement dans ta vie quotidienne. Est-ce que nous croîtrons en Christ en toutes choses? A dit, croître en Christ, c'est avoir Christ augmenté en nous en toutes choses jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'un homme mûr. Nous avons tous besoin de croître en Christ en toutes choses, c'est-à-dire dans chaque chose, qu'elle soit grande ou petite. Ne soyez pas trichés par quelqu'un qui est très spirituel à l'extérieur, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances de la Bible, quelqu'un qui est très humble ou qui est très doué dans les paroles. tu dois voir comment il parle à sa femme et à ses enfants. Comment il nettoie les choses, comment il prend soin de ses affaires, sa chambre, son lit. En toutes choses. Petit 1 dit, il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles nous n'avons pas encore grandi en Christ. Dans ces choses, nous ne sommes pas en Christ, mais nous sommes toujours, mais nous sommes en dehors de Christ. Une des choses les plus difficiles pour croître en Christ, c'est dans nos paroles. Quand nous commençons à parler, nous ne pouvons pas terminer ou arrêter. Qu'est-ce qui se passe avec telle ou telle personne, telle ou telle chose? On fait simplement du commérage. Nous parlons. Nous n'avons pas beaucoup de fardeau pour prier. Si telle personne est sévèrement malade, c'est intéressant et tu commences à parler par rapport à ça. Est-ce que tu as commencé à prier quand tu entends que quelqu'un est malade? Il faut avoir un sentiment pour prier. Parler, c'est une faiblesse pour beaucoup d'entre nous. C'est pas facile de croître en Christ dans nos paroles. Point 2. Lorsque nous croissions tous en Christ en toutes choses, nous serons un en Christ. C'est l'unique nouvel homme universel. Vous vous souvenez, le Christ dans lequel nous croissions, ce n'est pas simplement le Sauveur, mais il est notre tête. Quand nous croissons en une telle personne, toi tu crois en lui, lui il croit en lui, spontanément nous devenons le corps de Christ en réalité. Nous sommes tous réunis dans cette tête, tout comme notre corps physique. Notre tête, qui est notre système central nerveux, il contrôle chaque émotion dans mon corps ou dans mon être. Dernièrement, j'ai entendu parler d'un frère qui a souffert une condition dans son cerveau. Il y avait un peu de fluide qui est entré dans son cerveau. Il y a une partie de son cerveau qui ne peut pas bien fonctionner. Et une moitié de son corps est paralysée. Et ses paroles étaient impaires. Nous pensons que nous pouvons nous déplacer facilement. Mais quand notre cerveau est affecté, même juste un peu, le mouvement arrête. Nous sommes tous membres vivants du corps de Christ. Christ est la tête unique. C'est lui qui gouverne chaque geste du corps. Il faut que nous croissions tous dans cette tête-là. Il faut qu'on soit organiquement unis à cette tête, qu'il n'y ait aucun blocage, aucune frustration. Thank you. Quand tous les membres croient en lui qui est la tête, spontanément, tous les membres vont se fonctionner normalement. Point 3. Croître en Christ en toutes choses est pour l'existence pratique de l'unique nouvel homme universel. L'état d'homme mûr au verset 13 se réfère à l'unique nouvel homme au verset 24 qui est devenu mûr. Le prochain message, nous allons parler de nous revêtir du nouvel homme. Ce message, nous mettons l'accent sur la croissance. L'état d'homme mûr au verset 13 se réfère à l'unique nouvel homme au verset 24 qui est devenu mûr. Donc, on a l'homme mûr qui est l'unique, qui est le nouvel homme. De croître en Christ, c'est de nous revêtir de cet nouvel homme. C'est Éphésiens 4 parle du perfectionnement du nouvel homme par la croissance de la vie. L'unique nouvel homme créé par Christ doit être perfectionné pour fonctionner. Dans cette portion de la parole, dans Éphésiens 4, versets 13 à 16, la croissance du nouvel homme, pour le perfectionnement du nouvel homme, est révélée ici. Au verset 14, ça dit que nous sommes plus de petits enfants ballottés par les flots et emportés. Il faut que nous grandissons pour être mûrs. Et au verset 12, ça dit que Dieu a donné comme des dons au corps pour le perfectionnement des saints. En vue du ministère, de l'œuvre du ministère, en vue de l'édification du corps de Christ. Le nouvel homme a été créé au chapitre 2. Maintenant, afin que ce nouvel homme croisse et fonctionne, il doit être perfectionné. Donc, au verset 15, nous voyons la fonction du nouvel homme organiquement. Et le verset 16, nous parlons du corps de Christ dans sa fonctionnement. Donc, dans Genèse 1, l'homme a été créé pour exprimer Dieu et représenter Dieu. Mais afin de mener à bien cette fonction-là, il faut que cet homme-là croisse et soit mûr, et soit perfectionné. Le nouvel homme, organiquement parfait, a besoin d'être perfectionné par la croissance de la vie pour fonctionner adéquatement. L'unique nouvel homme peut devenir parfait par rapport à sa fonction seulement en recevant la nourriture appropriée. C'est l'un des concepts les plus profonds du livre d'Éphésiens. Dans un tel livre élevé concernant l'Église, dans Éphésiens, par rapport à l'Église, il y a une pensée profonde sur l'approvisionnement ou la nourriture. Le Christ, comme le corps de Christ, ne peut pas croître sans la nourriture. Tout comme nous, il faut manger 3 repas. Pour que notre vie soit maintenue, il faut manger régulièrement. Le corps de Christ peut seulement croître en se nourrissant. Au chapitre 3, Paul parle des richesses insondables de Christ. ce Christ tout inclusif avec ses richesses, c'est pour approvisionner son corps. Et aussi dans chapitre 4, verset 16, tout le corps, en étant relié et entrelacé par chaque jointure du riche approvisionnement, les joints ou les jointures réfèrent aux dons que Dieu a donnés à son corps. Ces dons, leur fonction, c'est d'approvisionner le corps avec un approvisionnement riche. À travers l'approvisionnement riche, il peut avoir le perfectionnement des saints. Et ensuite, la fonction peut être produite. Nous devons remplir notre responsabilité de perfectionner le nouvel homme en le nourrissant et en le chérissant. On remercie le Seigneur pour les dons qu'il a donnés à son corps. Sûrement, le frère Lee était un tel don. Il n'a pas simplement donné une vision élevée par rapport au plan de Dieu, mais il nous a aussi donné un approvisionnement riche. Regardez les études de vie. J'ai jamais regretté de lire un message d'une étude de vie. Chaque message. Il n'y a pas simplement la lumière, mais aussi la vie, l'approvisionnement de vie. Ce n'est pas simplement des demandes, des exigences, ah, il faut faire ça, il faut faire cela, mais notre être est nourri. Comment est-ce que le corps peut croître s'il n'y a pas l'approvisionnement? Les gens peuvent dire ci et ça par rapport au frère Lee. Mais quand tu touches les messages de l'étude de vie, tu es nourri. Tu es vraiment nourri. Il faut rester loin de l'arbre de la connaissance. Mais sois proche à l'arbre de vie. Plus l'unique nouvel homme grandit en recevant la nourriture adéquate, plus il fonctionnera normalement. Pour la croissance du nouvel homme coopératif, nous avons besoin de faire l'expérience du Christ crucifié, ressuscité, monté en ascension et celui qui est descendu, afin que le Christ tout inclusif soit forgé en nous pour être notre tout. Alors le nouvel homme organiquement organiquement parfait deviendra parfait en fonction. Amen. Notre Christ est un Christ crucifié, un Christ ressuscité, monté en ascension, et celui qui est descendu. Révélé dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Nous voyons un tel Christ à passer à travers un processus, surtout au verset 10. Ça dit, qui est celui qui est descendu? N'est-il pas celui qui est monté en ascension? Afin qu'il puisse remplir toutes choses. Notre Christ est descendu premièrement dans son incarnation. Et après, il est allé à la croix pour être crucifié. Et après avoir été crucifié, il a descendu encore plus au Hadès. Mais ensuite, il est monté en ascension plus au-delà de la terre et jusqu'aux cieux. Et jour de la Pentecôte, il est descendu encore. À travers sa descension, son ascension et encore sa descension. Le Christ ressuscité et monté en ascension remplit toutes choses. Il doit remplir notre univers. Notre univers personnel. Doit être rempli par ce Christ crucifié, ressuscité, monté en ascension et en descension. Il faut faire l'expérience de ce Christ dans tous ces processus. La bonne terre n'est pas une terre plate. La bonne terre est une terre avec beaucoup de collines et de vallées. Des fois, nous sentons que nous sommes dans les collines, des montagnes, et nous louons le Seigneur. Alléluia! Mais d'autres temps, nous nous retrouvons dans des vallées. Nous avons des situations qui se passent, qui nous rendent très malheureux. Et même, nous voulons abandonner. Oh, c'est trop difficile. Nous nous retrouvons à un point si bas. Mais même dans une situation si basse, Christ est là. Il est descendu avec toi. Il pleurait là avec toi. Et à travers cela, il te remonte. Et après l'ascension et la descension, il remplit nos cœurs. Si nous n'avons jamais passé à travers des difficultés dans nos vies, nous ne pouvons pas expérimenter Christ comme notre tout. Nous connaîtrons juste certains aspects de Christ. Nous ne nous connaîtrons pas comment Christ peut nous remplir en toutes choses. Ça, c'est Christ qui nous nourrit, qui nous approvisionne et qui nous perfectionne pour que le nouvel homme puisse fonctionner, afin de l'exprimer et de le représenter. Nous passons au deuxième point. Pour la vie corporative du nouvel homme, nous devons apprendre Christ conformément à la réalité qui est en Jésus. Amen. C'est certainement un point profond. Je prie que le Seigneur va nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Non seulement nous devons croître en lui, il faut apprendre lui, apprendre Christ. Pas simplement apprendre de Christ, mais apprendre Christ. C'est une expression particulière. Paul dit « apprendre Christ ». Comment est-ce qu'on apprend une personne? Pas simplement quand il est né, où il était né et par rapport à sa vie. Paul dit qu'il faut apprendre cette personne. Il y a des gens qui disent on va imiter cette personne. Cette imitation de Christ est quelque chose d'extérieur, à travers notre effort humain. Il y a des gens qui demandent qu'est-ce qu'il ferait Jésus si quelqu'un te frappe sur le visage, qu'est-ce que Jésus fera? Ah, peut-être je vais lui donner mon autre joue. Ah, je vais juste essayer de montrer mon autre joue. Mais après qu'il a fait, tu deviens en colère. Tu deviens fâché. Et tu peux pas retenir ta colère et tu frappes la personne. Ça, c'est l'imitation de Christ. Par ton effort humain. Ça ne marche pas. Mais Paul dit, il faut apprendre Christ. Même conformément à la réalité qui est en Jésus. La réalité réfère à la vie humaine, la vie quotidienne que Jésus avait. Au verset 20, Paul parle d'apprendre Christ. Christ n'est pas seulement la vie pour nous, mais aussi un exemple. Dans sa vie sur terre, le Seigneur Jésus a mis en place un modèle, un moule. Dans Jean 13, après le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, il dit qu'il s'est donné comme un exemple, afin que eux aussi puissent le suivre. Il faut apprendre Christ. Être sauvé, c'est être mis en Christ par Dieu. Par le baptême, Dieu nous a mis en Christ, qui est le modèle. Être baptisé, c'est être placé dans le Christ comme le moule. Comme j'ai mentionné dans les messages précédents, pour être un croyant, c'est pas simplement d'adopter certains codes, certains principes ou de règlements. Quand tu as cru en Jésus, il t'a placé dans une personne. Corinthiens 5 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous ne sommes plus en Adam, mais nous sommes maintenant en Christ. C'est de Dieu que nous sommes en Christ Jésus. Après que nous avons cru en lui, il faut que nous soyons baptisés. Il faut que nous soyons mis dans l'eau. Cette eau représente ce Christ crucifié avec sa mort. Il faut que nous soyons mis en lui, enterrés avec lui, baptisés avec lui. Ce baptême est un moule de la mort de Christ. Les sœurs, quand vous préparez des gâteaux, souvent vous utilisez un moule. Peut-être ça a une forme de lapin et après tu mets la farine et dans le moule. Et après tu le mets dans le four et après 60 minutes, tu sors le gâteau, ça a la forme d'un lapin. Le mélange a pris la forme du moule. Quand le mélange est mis dans la moule, ça prend la forme de la moule. Et c'est conformé à la forme du moule. Le nouvel homme a été créé dans le moule de celui qui l'a créé. Le nouvel homme, s'il veut exprimer le Dieu trinitaire, il a besoin de l'image du Dieu trinitaire. Il faut qu'il ait l'apprentissage de ce Christ. Donc, le baptême, c'est un moule. J'aimerais vous lire Romains 6, versets 4 et 5. Nous avons donc été enterrés avec lui par baptême dans sa mort, afin que, comme Christ fut ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. Car si nous avons cru avec lui dans la ressemblance de sa mort, Nous le saurons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Est-ce que vous avez déjà considéré que votre baptême, c'est une question de votre croissance? Ce n'est pas quelque chose de statique. Paul dit que nous avons cru ensemble avec lui, dans la ressemblance de sa mort. La mort de Christ a une ressemblance. Sa mort, c'est comme un moule, qu'il a une forme, une ressemblance. Et quand nous sommes mis en Christ en étant baptisés, nous croissons avec lui dans cette ressemblance. Et aussi, nous avons cru en lui dans la ressemblance de sa résurrection. Il faut lire les notes de pied sur ces versets. C'est très illuminant. Cette croissance réfère à notre union organique avec Christ. À travers notre une branche peut être greffée à un arbre. Quand ils sont greffés ensemble, il y a la transmission de la vie dans chaque partie, l'un dans l'autre. Quelque chose de l'arbre croit dans la branche, quelque chose de la branche croit dans l'arbre. Notre baptême, quand nous sommes mis avec Christ, mis en Christ, c'est la même chose. Nous sommes mis dans le moule de sa mort. Et nous croissons aussi en lui dans la ressemblance de sa résurrection. C'est ça l'apprentissage de Christ. Nous apprenons Christ pas d'une façon d'imitation. Nous apprenons Christ en entrant dans cette union organique avec Christ. Nous croissons en lui dans la ressemblance de sa mort et sa résurrection. 4. En étant mis dans le moule, nous nous sommes dépouillés du vieil homme et nous avons revêtu le nouvel homme. Nous apprenons Christ selon le moule de la vie de Jésus qui est la réalité. Apprendre Christ, c'est d'être mis en Christ comme le moule. C'est être moulé dans le modèle mis en place par lui pendant ses années sur la terre. C'est pour ça que j'ai dit hier que Christ fallait vivre une vie pendant 33 et demi sur cette terre. Son intention n'était pas simplement de venir pour accomplir la rédemption. C'était pas tout. Il est venu pour établir un modèle pour la vie humaine. Comment il a vu la vie humaine, mais pas par la vie humaine. Jean 6 dit, comme Dieu m'a élevé, Dieu m'a envoyé, Dieu, à cause de cela, je ne vis pas par ma vie, mais par la vie de Dieu. Je vis à cause de lui. Il a cherché la volonté de Dieu. Il a parlé la parole de Dieu. Il a vu la gloire du Père. Il n'a fait rien de lui-même. Il a vu une vie de réalité. À travers les 33 ans et demi que Jésus a vécu sur la terre, il a établi un modèle. Et ce modèle-là est devenu un moule dans lequel nous sommes mis pendant le temps de notre baptême. Et à ce moment-là, nous commençons à apprendre Christ, pas d'une façon académique, mais d'une façon organique, dans notre union organique avec lui. Continuons. B. L'expression « la réalité est en Jésus » se réfère à la véritable condition de la vie de Jésus telle qu'elle est dictée dans les quatre évangiles. La vie de Jésus était une vie de réalité. La réalité est un mot difficile à expliquer. La réalité en grec, c'est aletheia, qui est aussi traduit comme la vérité ou la vérité. La vie et le vécu de Christ, c'est une question de réalité et de vérité. La vérité, pas dans le sens de vrai ou faux. La vérité réfère à ce qui est vrai ou réel. Dans Jean 18, 37, Jésus était en train d'être jugé par Pilate. Pilate dit, « Tu es devenu pour être roi. » Jésus répondit, « Voici pourquoi je suis né. » Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. » Et Pilate a dit, « C'est quoi la vérité? » Jésus a dit, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pour cela, je suis né. » Tu peut-être as la même question, « C'est quoi la vérité? » La vérité n'est pas la doctrine. La vérité n'est pas les enseignements. La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est le Dieu trinitaire lui-même. Dans tout l'univers, c'est seulement Dieu qui est vrai. Tout le reste, c'est la vanité. Est-ce que cette table-là, est-ce qu'elle est réelle? Peut-être que ça a l'air réel. Tu peux le toucher. Mais après 20 ans, 30 ans, cette table-là n'est plus là. Quelqu'un peut le détruire ou ça peut simplement désintégrer. Rien dans ce monde physique est réel. Tout va être passé. Mais notre corps physique n'est pas réel. La seule personne qui est unique, la seule personne qui est réelle est Christ lui-même, est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il peut dire « Je suis la vérité ». La vérité n'est pas une doctrine. Dieu a dit que cette personne est venue pleine de grâce et de réalité. Il est plein de réalité de Dieu qui est vécu et vécu en réalité. Point 1. Au verset 17 et 21, nous voyons un contraste entre la vanité de l'intelligence et la réalité en Jésus. Tous les gens dans le monde vivent dans la vanité. Ils poursuivent la prospérité, le succès. Comme Salomon a dit, il n'y a aucune chose sous le soleil qui n'est pas la vanité. Rien va rester. À travers le temps, tout va disparaître. Mais ici, Jésus a vécu une vie de réalité. La réalité est le rayonnement de la lumière est la source, et la réalité est l'expression. La Bible nous dit que Dieu est la lumière et en lui il n'y a aucune ténèbre, noirceur. Christ est l'effulgence de la gloire de Christ, de Dieu. Quand Christ brille dans les ténèbres, il devient la réalité. Le Seigneur est le rayonnement de Dieu qui a la lumière. Du fait que dans tous les aspects de la vie du Seigneur sur la terre, il brillait comme la lumière. Sa vie était une vie de réalité, une vie du Dieu lui-même qui brillait. Cette vie de la réalité était l'expression de Dieu. Quand quelqu'un vit une vie pour lui-même et par lui-même, il vit une vie de vanité. Mais Jésus n'a pas vécu une vie pour lui-même et par lui-même. Il a vécu une vie pour le Père, avec le Père, pour le Père et un avec le Père. C'était une vie de réalité. C'est la vie du nouvel homme doit être exactement la même que celle de Jésus. Pour vivre le nouvel homme, il faut apprendre Christ, comme la réalité est en Jésus. Comme Jésus, qui était le deuxième homme, il a vécu la réalité de Dieu. Et le nouvel homme que Christ a créé, c'est la continuation de cette vie de Christ quand il a vécu sur cette terre. Tout comme Jésus a vécu sur cette terre. Point 1. La façon dont le Seigneur Jésus a vécu sur la terre est la façon dont le nouvel homme devrait vivre aujourd'hui. Notre niveau de vie doit être conforme à la réalité en Jésus. Il était un avec Dieu et il a vécu une vie dans laquelle il a tout fait en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. La vie humaine de Jésus était selon la réalité, c'est-à-dire selon Dieu lui-même, pleine de justice et de sainteté. Cette justice veut dire qu'il était juste avec Dieu et avec l'homme. La sainteté réfère à sa relation avec Dieu lui-même, qui est la piété, dévotion. Nous devons apprendre Christ et être enseignés en lui pour vivre une vie de réalité. Quand nous sommes baptisés, nous avons été mis dans ce moule. Et depuis ce jour, nous apprenons ce Christ. Pas dans une classe, pas d'une façon académique, mais par cette union organique. Maintenant, nous sommes unis avec Christ. Nous avons été mis en lui. Et quelque chose de lui coule en nous. Et quelque chose de nous coule en lui. C'est une vie de mélange. Dieu se mélange à l'homme et l'homme se mélange à Dieu. Et ici, on apprend Christ. Nous sommes en train d'être conformes à lui, d'être appris par lui et de lui. J'aimerais vous partager ce verset dans 1 Jean 5, verset 20. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la compréhension pour connaître celui qui est véritable. Et nous sommes dans celui qui est véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils de Dieu est venu. Il est venu à travers l'incarnation. Il est venu à travers sa mort et sa résurrection. Il est venu à nous en tant que l'Esprit qui donne la vie. Il est maintenant l'Esprit de réalité. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné une compréhension. La compréhension ici, c'est la capacité de connaître Dieu. Afin que nous puissions connaître lui qui est vrai. Le mot vérité en grec, c'est aletheia qui veut dire aussi la réalité. Que nous le connaissions, celui qui est vrai, et que nous soyons en lui qui est vrai. Il est celui qui est vrai. Il est la réalité. Comment est-ce qu'on peut connaître cette réalité? Comment est-ce qu'on peut apprendre cette réalité? Parce que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné une compréhension. Maintenant, nous pouvons le connaître, pas seulement par des enseignements extérieurs, mais en étant unis à lui organiquement. Maintenant, il est l'Esprit de réalité. Il nous guide dans toute la réalité, afin que nous puissions le connaître, celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est ça le vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est vraiment un verset spécial. Qu'est-ce que c'est le Dieu vrai? C'est tout cela. C'est lui qui est venu, qui nous donne la compréhension, qui est celui qui est vrai. Tout ça, c'est le vrai Dieu. C'est ça, la vie éternelle. C'est comme ça que nous apprenons Christ. C'est comme ça qu'on est appris en lui. Le Seigneur a dit qu'il viendra comme l'Esprit de réalité, qui nous amènera dans toute la réalité. Maintenant, le nouvel homme doit vivre une vie qui apprend Christ, comme la réalité qui est en Jésus. Nous avons aussi reçu cet esprit de réalité en nous. Et notre verset, 1 Jean 2, 7. Cet esprit est l'onction. Il nous enseigne par rapport à toutes choses. Comment est-ce qu'on apprend Christ? Il y a aussi... Il nous enseigne par rapport à toutes choses. Ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Point 4. En étant qu'une personne collective, l'unique nouvel homme doit vivre une vie de réalité. conformément à la réalité qui est en Jésus, qui est une vie d'expression de Dieu. Si nous vivons selon l'esprit de notre intelligence, nous aurons la vie du nouvel homme corporatif, une vie qui correspond à la réalité en Jésus. Chaque jour, on a besoin de l'esprit de vie nous invader pour que notre intelligence soit renouvelée, qui devient l'esprit de notre intelligence pour qu'on puisse apprendre Christ et connaître Christ. Et que notre vie correspond à la vie qui a été exhibitée par Christ sur cette terre. Point D. La vie de l'Église est la marche quotidienne du nouvel homme corporatif. Une marche absolument nouvelle dans la nature et dans la conduite. Tout ce qui concerne le nouvel homme est nouveau. Ce qui est nouveau est Dieu. C'est seulement Dieu qui est nouveau. Ce qui nous rend nouveau, c'est seulement Dieu qui est nouveau. Puisque le nouvel homme est selon Dieu lui-même, avec la vie et la nature de Dieu, l'unique nouvel homme doit avoir la vie divine. Une telle vie sera corporative, pas individualiste. Je prie que l'esprit de réalité va nous parler toutes ces paroles pour la vie quotidienne du nouvel homme. Il faut que nous prions que je veux croître en toi en toutes choses. Je suis disposé à être enseigné en toutes choses. Je veux apprendre Christ. Conformément à la réalité que tu as vécue sur cette terre, comme un homme corporatif, on peut vivre une vie, nous pouvons vivre une vie qui est la même vie que tu as vécue sur cette terre. D'une façon corporative, collective. Pas simplement comme un individu. C'est un nouvel homme qui amènera son royaume et qui préparera la mariée et qui va ramener le mari. Donc, nous pouvons terminer cette réunion.